Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez graphite94.net ou sur le net graphite.net et on se retrouve pour la suite de ces émissions consacrées à l'UVW01, questionner le web, qui est enseigné à l'Université de Technologie de Compiègne, mais dont vous pouvez aussi retrouver le contenu librement sur librecours.net. Pendant ces émissions, c'est le moment où les étudiantes et les étudiants viennent présenter le résultat de leurs projets, de leurs travaux du semestre qui s'articulent autour de grandes problématiques, autour du web et plus généralement du numérique. Pour cette émission, je suis en direct avec quatre étudiantes et étudiants, Ethan, Martin, Taline et Xavier. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Merci. Bonjour.
Taline et Xavier, c'est donc vous qui allez commencer cette émission et je vous laisse la main pour nous présenter les sujets dont vous allez nous parler.
Merci. Bonjour à tous, nous sommes Xavier et Taline, étudiants en WE1, questionner le web. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui porte sur le scandale Cambridge Analytica. Pour que ça soit plus ludique, nous allons prendre la peau du lanceur d'alerte Christopher Wiley dans un format interview. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes sur Graphite pour votre rendez-vous 100% dédié au numérique. Aujourd'hui, nous effectuons un retour quelques années en arrière en se replongeant dans l'affaire Cambridge Analytica de 2018. À travers cette affaire, nous tenterons de percer les secrets les mieux cachés des géants de la tech. Saviez-vous que vos actions en ligne, vos clics, sont susceptibles d'être utilisés par les grandes entreprises de la tech à des fins que vous n'auriez peut-être pas imaginées ? Je suis aujourd'hui en présence de Christopher Wiley, lanceur d'alerte, ancien salarié chez Cambridge Analytica, qui nous exposera les coulisses de la fameuse affaire qui avait retourné le web en 2018.
Salut à tous, merci pour votre invitation. C'est un sujet qui est aussi palpitant que complexe, et donc je suis impatient de commencer.
Laissez-moi vous rappeler la situation à nos auditeurs. Le 6 mai 2018, le journal The Guardian a publié un article choc. Exploitation de données ainsi que manipulation électorale étaient au programme du jour. En effet, l'élection du président Donald Trump de 2016 aurait été influencée par les sociétés Facebook et Cambridge Analytica. Wiley, je vous laisse nous en dire plus et vous présenter à nos auditeurs.
Alors, donc, je m'appelle Christopher Wiley, je travaillais à l'époque chez Cambridge Analytica en tant que data analyst et en tant que directeur de la recherche lors de la naissance de l'affaire. Et j'assistais à tout le déroulement depuis l'intérieur et même participais à sa création. Mais mes valeurs ne s'alignaient pas forcément avec les opérations massives, illégales de l'entreprise, et donc j'ai décidé de lancer l'alerte.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé ?
Alors tout a commencé lorsque le chercheur Alexandre Kogan a fait un partenariat avec Facebook pour faire des statistiques anonymisées à des fins de recherche. Il a ensuite développé une application Facebook nommée This is your digital life, dans le but de proposer des tests de personnalité contre rémunération, en partenariat donc avec Cambridge Analytica. Les quiz avaient pour but de déterminer la personnalité de l'utilisateur selon le modèle océan, donc c'est-à-dire ouverture, consciencieusité, extraversion, agréabilité et enfin névrosisme. Enfin, c'est la négligence de Facebook qui a permis à cette application de siphonner les données telles que le graphe social ou les likes à l'insu utilisateur. Ainsi donc que les données de ces relations, donc au total 87 millions d'utilisateurs, ont été concernés.
Si je comprends bien, l'algorithme de profilage s'est servi des données des quiz de personnalité et celles des comptes partagés par Facebook lui-même pour être capable de prédire la personnalité d'un utilisateur lambda.
Alors c'est exactement ça. Donc prenons un exemple simple. D'abord, on va montrer un algorithme sans photo de chat qui miaule, puis sans photo de chien qui aboie. Ensuite, on lui montre une photo de chat, il va pouvoir prédire que le chat va miauler.
Et à quoi est-ce que ça a servi de faire ce profilage ?
À l'aide du profilage, les messages politiques présentés aux utilisateurs peuvent être très personnalisés, et donc pour les influencer au mieux vers ce que l'on peut, vers ce que l'on veut. Ici, dans le cadre des élections présidentielles de 2016, en tentant de les pousser à voter en faveur de l'extrême droite américaine.
Et tout cela sans que l'utilisateur n'ait été mis au courant. Merci de vos explications. On va maintenant écouter un témoignage d'une victime de ce scandale que je vous laisse découvrir.
Went onto my Facebook page this morning and had a look. To see whether I had been affected by the Cambridge Analytica scandal. Turns out that I have, and I found out that the information that was passed on to Cambridge Analytica was my public profile, my birthday, my current city, and my page likes. I went to quite considerable lengths to make sure that my birthday wasn't shared, and that has been passed on to Cambridge Analytica, because I think that's relatively personal information. The page likes that I had a look at you can build up quite an intricate picture of what I'm like and the.
Vous venez d'écouter Katie Hyle, journaliste à la BBC, qui a découvert que ses données personnelles étaient concernées par ce scandale. Comme dans le cas de Katie, cette affaire a réellement ouvert les yeux du grand public sur les enjeux du marché de la donnée, qui restait auparavant très mystérieux.
Mais vous savez ce qui me choque le plus ? C'est que ce type de démarche est réalisé et analysé depuis plus de 20 ans, avant ce scandale. On peut décrire cela par la captologie. Cet terme a été introduit par B.J. Fogg en 1998 et il étudie l'étude de l'informatique et de ses technologies du numérique et des technologies du numérique comme outil de persuasion et de changement de comportement. Pour faire simple, l'ordinateur exerce un pouvoir de persuasion à travers trois différents axes. Le premier axe, la machine réduit au maximum les efforts que l'utilisateur doit fournir. Le deuxième axe, elle fournit par la suite un espace d'exploration virtuel, paraissant réel, qui nous fait nous sentir que nous expérimentons réellement une situation concrète. L'expérience vécue par l'utilisateur peut le persuader de changer d'avis ou de comportement. Troisième axe, finalement, la machine devient un compagnon jouant sur des biais précis, tels que le langage ou la notion de compliment. Alors l'utilisateur a vraiment l'impression de s'adresser à un humain. Et même si Fogg n'a jamais vraiment parlé de l'IA comme d'un outil porteur d'opinion, on remarque des similitudes avec notamment la notion de compliment. L'IA nous dit toujours que nos questions sont très pertinentes. Par conséquent, la machine n'est pas seulement un outil pour l'utilisateur, elle devient un être personnifié et porteur d'opinion.
Mais comment se fait-il que nous soyons autant attirés par les machines ? Comment les big tech arrivent à nous faire revenir à chaque fois sur leurs applications ?
Alors c'est une très bonne question. Le tour de magie réside dans le système de récompense aléatoire. Imaginez que vous allez un jour au casino et que par le plus grand des hasards, vous repartez avec 10 fois la somme dépensée. Vous allez vouloir y retourner encore et encore afin de réitérer cet événement. Et même après des dizaines de sessions passées à perdre de l'argent, vous voudrez toujours y retourner afin que l'expérience du gain se répète. C'est exactement la même chose avec les réseaux sociaux. On swipe jusqu'à trouver une vidéo drôle ou intéressante. On reste constamment sur l'application pour voir si on a reçu un message ou un like sur un post. Et on se retrouve finalement prisonnier de l'appli pendant que l'algorithme nous comprend de mieux en mieux et nous partage du contenu de plus en plus ciblé.
Donc, à cause des récompenses aléatoires qu'il nous faut rester et revenir, on se retrouve prisonnier de ce système alors que nous nous croyons libres de nos choix. On comprend beaucoup mieux la puissance de cette captologie. Si vous souhaitez en savoir plus, un documentaire existe sur ce sujet. Écoutons un extrait.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
That's not by accident, that's a design technique.
What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology.
Nous venons d'entendre la bande-annonce du documentaire Derrière nos écrans de fumée, qui décrit la manière dont les réseaux sociaux majeurs collectent nos données en masse. Nous ne sommes plus sur la vision optimiste de la captologie de Fogg, mais plutôt sur des méthodes plus agressives de persuasion et de rétention de l'attention de l'utilisateur, qui correspondent mieux à ce que Nir Eyal décrit dans son livre Hooked. Qu'en pensez-vous ?
Alors effectivement, l'affaire de Cambridge Analytica n'est pas un accident isolé, qui a été causé uniquement par la malveillance d'une entreprise et par les failles de Facebook. En analysant cet événement par le prisme de la captologie, on se rend compte qu'il s'agissait au contraire de la suite logique d'un système technico-économique dans sa globalité. C'est là le tour de passe-passe réalisé par Facebook dans le cas de notre affaire. Vous restez un maximum sur l'application et celle-ci vous comprend de mieux en mieux. Plus vous passez de temps sur l'application, plus vous produisez des données et plus votre profilage sera précis. Plus le ciblage sera efficace et donc capable de vous pousser à prendre des décisions de manière inconsciente. Ainsi, la captologie est utilisée à des fins de récolte de données qui profitent aux intérêts de certains individus ou entreprises.
Il me semble qu'un exemple récent d'utilisation de la captologie est la mise à jour Instagram d'octobre 2025, où l'interface a totalement été refondue. Il est maintenant encore plus simple de voir si quelqu'un vous a envoyé un message, et l'icône de l'accès au réel, vidéo format court, a été placée directement à droite de la page d'accueil. Les utilisateurs qui avaient pour habitude de swiper à droite depuis la page d'accueil pour voir leur message ont maintenant directement accès au réel. Cette disposition pousse donc encore plus les utilisateurs à rester sur l'application en regardant des réels, tout en pouvant voir leur message seulement avec un seul swipe, alors que deux actions étaient nécessaires avant la mise à jour. On est bien loin de la vision optimiste de la captologie de Fogg qui considère que la technologie de la captologie est neutre, voire même bonne.
Et oui, la technique est en réalité autonome. Son créateur ne peut pas prévoir ses effets, et donc déployer à grande échelle, les conséquences des dispositifs échappent à leur contrôle. Dans notre affaire, le modèle de captologie de Nir Eyal, ancien élève de Fogg, plus pessimiste, correspond mieux.
Peut-on dire que l'on pouvait s'y attendre à de telles conséquences de la captologie ?
Alors totalement. La notion d'extraction de masse de données alimente un marché où la capture de l'attention de l'utilisateur ainsi que son profilage s'auto-engendre. Cambridge Analytica n'a fait que s'insérer dans un système déjà bien huilé. La diffusion de contenu politique visé n'est que le produit final d'une infrastructure technique conçue précisément pour transformer le comportement des gens en contenu monnayable. Ce système porte le nom d'économie de la surveillance, où la nature humaine est utilisée comme un matériau pour créer de nouvelles marchandises. Tant qu'une demande existe, en l'occurrence des entreprises qui veulent cibler des profils particuliers, le marché de la donnée fructifiera.
Merci Wiley, c'est déjà la fin de notre émission. Merci d'avoir témoigné et d'avoir sonné l'alerte sur les pratiques illégales et à grande ampleur de Cambridge Analytica. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. On espère que ce format qui vous a replongé dans l'actualité de 2018 vous a plu. Cette émission est sous licence CC BY-SA. Sentez-vous libre de la rediffuser en nous citant. Pour plus d'informations sur les concepts évoqués, rendez-vous sur librecours.net.
Et merci beaucoup à vous, Taline et Xavier, pour cette présentation et pour les exemples originaux que vous avez mobilisés pour expliquer la captologie. On va pouvoir passer du coup à la seconde partie de cette émission avec vous, Ethan et Martin, où vous aussi, vous allez nous parler de captologie, mais c'est toujours intéressant d'avoir une autre approche et une autre façon de l'expliquer, et surtout de l'articuler avec autre chose, puisque vous allez notamment nous parler d'intelligence artificielle. C'est à vous.
Alors oui, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, on va effectivement se focaliser donc sur la captologie, mais en se basant sur, cette fois-ci, une enquête donc, réalisée par Amnesty International qui porte sur TikTok et également sur le fonctionnement de son algorithme de recommandation. Nous verrons ensuite comment ces observations peuvent être mises en relation avec la captologie, donc qui est un champ de recherche qui étudie la manière dont les technologies numériques peuvent orienter les actions et les habitudes de leurs utilisateurs, comme dit précédemment.
Avant d'aborder la notion de captologie, il est nécessaire de revenir sur une enquête récente menée par Amnesty International concernant TikTok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'application, TikTok est un réseau social fondé sur le partage de courtes vidéos qui s'enchaînent de manière quasi continue. L'application repose principalement sur un fil personnalisé, appelé « Pour toi », dans lequel les contenus affichés sont sélectionnés automatiquement par un algorithme en fonction du comportement de l'utilisateur, c'est-à-dire son temps de visionnage, les recherches, commentaires, partages ou encore les interactions avec certaines vidéos.
Merci beaucoup pour cette explication, Martin. Donc, dans son enquête publiée en 2025, Amnesty International cherche à comprendre comment cet algorithme peut influencer les contenus proposés aux adolescents. Donc pour cela, l'organisation elle a créé plusieurs comptes qui vont simuler des jeunes de 13 ans, qui est donc également l'âge minimal requis pour utiliser la plateforme. Et les chercheurs ont ensuite observé l'évolution des recommandations affichées dans le fil pour toi, en fonction des comportements adoptés par ces comptes.
Les résultats montrent que certains profils peuvent être progressivement exposés à des contenus liés à la tristesse, à la dépression, à l'automutilation ou encore au suicide. Cependant, cette exposition varie selon plusieurs paramètres, le temps passé à regarder certaines vidéos, la répétition des consultations, les interactions réalisées avec les contenus ou encore les thématiques déjà présentes dans les recommandations initiales. Amnesty souligne ainsi que l'algorithme adapte très rapidement les contenus proposés et peut renforcer certaines dynamiques de consultation chez des utilisateurs considérés comme vulnérables.
Nous allons vous faire écouter maintenant un extrait audio de Feldup, un youtubeur qui a essayé de faire sa propre enquête sur TikTok dans le but de voir du contenu d'horreur créatif, donc créé par des gens, sur la plateforme, mais qui s'est surtout retrouvé à regarder des vidéos horribles, pas dans le sens horreur, mais plutôt dans le sens dérangeant pour la santé mentale.
Au final, il y a quand même pas mal de trucs qui me dérangent dans ce que j'ai pu voir. TikTok m'a souvent identifié comme une personne qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement, et ce qui me montrait pour quelqu'un qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement, c'était assez horrible. Et autant je pourrais en vouloir à TikTok parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont rajoutés par des êtres humains qui sont vraiment dégueux dans l'algorithme TikTok, peut-être qu'on en parlera un jour de comment l'information est manipulée et comment l'image en général est ruinée par cette application. Autant ça, c'est fait par des humains, mais le reste de l'algorithme, c'est une IA. Elle analyse des contenus, elle analyse des profils de gens, et je ne sais pas à quel point ce que j'ai eu sur ma For You page veut dire à propos soit de l'algorithme de TikTok, soit de la tranche d'âge des gens entre collège et études supérieures, voulant voir de
les situations décrites dans l'article Amnésie internationale peuvent être étudiées à travers un champ de recherche qu'on appelle captologie. Ce champ de recherche a été introduit dans les années 1990 par le chercheur américain B.J. Fogg et désigne l'étude des technologies numériques comme des outils de persuasion et de modification des comportements. Elle cherche à comprendre comment certains dispositifs numériques peuvent encourager ou faciliter certaines actions.
Selon Fogg, l'apparition d'un certain comportement repose sur la combinaison de trois éléments qui doivent être présents simultanément. Ces trois éléments sont la motivation, la simplicité et l'existence d'un élément déclencheur. Pour ce qui est de la motivation, elle correspond aux différentes raisons qui poussent un individu à agir. Cela peut être par exemple la recherche du plaisir, l'espoir d'obtenir un bénéfice ou encore le besoin d'être accepté socialement. A l'inverse, certaines motivations peuvent également être liées à la peur de souffrir ou même encore au désir d'éviter une situation désagréable. La simplicité, quant à elle, définit la facilité avec laquelle une action peut être mobilisée, que ce soit le temps nécessaire pour la réaliser ou bien l'effort associé, qu'il soit physique ou mental. Enfin, l'élément déclencheur joue le rôle d'incitation ou de rappel au moment jugé comme le plus efficace.
Cependant, la captologie ne doit pas être vue comme une théorie dénonçant les technologies numériques. Au contraire, Fogg affirme que les principes du design comportemental peuvent être mobilisés dans des contextes très variés et avec des objectifs bénéfiques. Certaines applications permettent par exemple aux patients de respecter plus facilement leur traitement médical grâce à des rappels personnalisés. D'autres services ou applications encouragent les utilisateurs à adopter de meilleures habitudes de sommeil, à réduire leur consommation d'énergie ou encore à limiter le gaspillage alimentaire. Les technologies numériques peuvent également être utilisées pour accompagner l'apprentissage des langues, encourager la lecture régulière ou aider des personnes à arrêter de fumer en les accompagnant dans la durée.
Il est important de rappeler que Fogg est avant tout un chercheur et que ses travaux sont longtemps restés relativement confidentiels. Cependant, plusieurs de ses idées vont ensuite être reprises et adaptées par des acteurs du numérique. C'est notamment le cas de Neil Hall, entrepreneur et ancien étudiant de Fogg à Stanford. Avec la publication de son livre Hooked en 2014, il contribue largement à faire connaître ses principes auprès des grandes entreprises technologiques et du monde des plateformes.
Nous allons maintenant écouter un court extrait de Neil Hall. Celui-ci permet d'observer comment certains principes étudiés par Fogg ont été repris et appliqués dans la conception des plateformes numériques. Cet extrait fera ainsi la transition vers notre articulation.
These behaviors that we do with little or no conscious thought. Turns out that about 40% of what you do, day in and day out, whether you like it or not, is done purely out of habit. I'd like to share with you a design pattern that companies use to build habit-forming products. It's a technique that I've learned in my years in the advertising and gaming space, and it's what I teach at the design school at Stanford University. It's called the hook. The hook is an experience designed to connect the user's problem to the company's product with enough frequency to form a habit. Now, these hooks start with a trigger. A trigger tells us what to do next. It can be some piece of information like play this or click here. Now, we see these external triggers all the time. Right, they're in our environment, in our day-to-day lives.
Afin d'illustrer les propos de Neil Hall et du modèle qu'il met en avant, Martin va vous conter une petite histoire, l'histoire de Grégory.
Il est 18h, Grégory, alors âgé de 16 ans et en classe de seconde, rentre de sa journée de cours du mercredi, particulièrement énergivore et stressante.
Pourquoi ?
8 heures de cours, des contrôles à venir et une abondance d'informations à connaître pour le lendemain. Comme beaucoup d'élèves, Grégory se dit probablement qu'il manque de temps dans une journée. En rentrant chez lui, il décide de s'accorder une courte pause sur son téléphone avant de commencer ses devoirs. Juste quelques minutes, se dit-il. Il ouvre d'abord Instagram. Depuis quelques temps, une fonctionnalité fait beaucoup parler d'elle, les réels, ces courtes vidéos qui s'enchaînent les unes après les autres. Grégory regarde quelques vidéos de sport, puis des voyages, des influenceurs de son âge. Tout semble parfait, les corps, les vacances, les chambres, les vêtements et les réussites. Sans vraiment s'en rendre compte, il continue à faire défiler le contenu, vidéo après vidéo. Au bout de quelques minutes, une notification apparaît sur son écran. Un de ses camarades lui a partagé une vidéo TikTok. Par curiosité, il clique. La vidéo parle d'un challenge dont tout le monde semble discuter. Dans les commentaires, les réactions se multiplient. Une vidéo en entraîne une autre, puis une autre encore. Certaines sont étonnantes, d'autres plus inquiétantes, et certaines abordent des sujets liés au mal-être, à la dépression ou à l'automutilation. Grégory est surpris par l'engouement que suscitent ces contenus. Il continue à regarder, puis décide de consulter les commentaires, de partager une vidéo à un ami et d'enregistrer une autre pour la regarder plus tard. Sans réellement l'avoir décidé, ce qui devait être une courte pause avant de travailler s'est progressivement transformé en une succession d'actions. Regarder une vidéo, lire des commentaires, répondre à un message, cliquer sur une recommandation, puis tout recommencer. Puis, une voix résonne depuis le rez-de-chaussée.
Grégory, à table!
Le jeune homme lève les yeux, il est 21h. 3 heures se sont écoulées, ses devoirs n'ont toujours pas commencé. Décidément, Grégory se dit qu'il n'y a vraiment pas assez de temps dans une journée.
Merci Martin. Alors, l'histoire de Grégory et l'enquête menée par Amnesty International montrent que les interactions avec ces plateformes ne se limitent pas à la simple consultation de contenu. Les recommandations, les notifications ou encore l'enchaînement automatique des vidéos vont participer à structurer cette expérience auprès des utilisateurs. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où les plateformes du numérique reposent sur un modèle économique basé sur le temps d'utilisation. De manière générale, plus une personne passe de temps sur une application, plus elle produit des données sur ses habitudes et plus elle est exposée à des contenus publicitaires. Ces deux éléments constituent aujourd'hui des ressources importantes pour les plateformes numériques.
Néanmoins, contrairement à l'information qui est produite en quantité pratiquement illimitée sur Internet, le temps et l'attention des utilisateurs sont des ressources qui sont, elles, limitées. Dès les années 1970, le chercheur Herbert Simon expliquait déjà qu'une abondance d'informations crée une pauvreté de l'attention. Les différentes plateformes peuvent se trouver incitées structurellement à maximiser le temps passé sur leur plateforme.
Et il est important de rappeler aussi que la captologie est antérieure aux réseaux sociaux et également aux GAFAM. Cependant, certains principes étudiés par Fogg ont progressivement trouvé des applications dans la conception des plateformes numériques contemporaines. Parmi les ouvrages les plus influents dans ce domaine figure ainsi Hooked, dont on a parlé précédemment. Dans cet ouvrage, donc, Nireyol a proposé un modèle décrivant la formation d'habitude à travers 4 étapes, un déclencheur, une action simple, une récompense variable et un investissement de l'utilisateur. Ce modèle vise à expliquer comment certains produits numériques peuvent favoriser des usages répétés.
L'histoire de Grégory permet d'illustrer ce mécanisme et ce modèle. La notification reçue sur son téléphone agit comme un déclencheur, l'ouverture de l'application constitue l'action, les vidéos et contenus proposés représentent une récompense variable puisqu'elles alternent entre divertissement, surprise ou curiosité. Enfin, les commentaires, les partages ou l'enregistrement d'une vidéo correspondent à une forme d'investissement qui favorise le retour ultérieur sur la plateforme.
L'enquête d'Amnesty International montre toutefois que ce mécanisme peut également conduire certains utilisateurs à être exposés de manière répétée à des contenus liés au mal-être, à la dépression ou bien même encore à l'automutilation. Les systèmes de recommandation associés aux interactions des utilisateurs et à l'exploitation de nombreuses données personnelles peuvent ainsi influencer les parcours de navigation et la visibilité de certains contenus. Ainsi, les principes étudiés par la captologie trouvent aujourd'hui des prolongements dans les plateformes numériques contemporaines. Si ces mécanismes peuvent être mobilisés dans des objectifs bénéfiques, comme on l'a dit précédemment, arrêter de fumer, ils soulèvent également des interrogations concernant leurs effets potentiels sur les comportements, les habitudes ou même l'accès à l'information. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux, Ethan et Martin, pour cette présentation qui traite quand même de sujets très délicats, très d'actualité et que vous avez vraiment réussi, je trouve, à mettre ensemble à travers l'histoire aussi que vous avez faite. Et merci encore, Taline, et j'oublie toujours un prénom en chemin, Xavier, pardon, pour le travail de forme que vous avez fait aussi sur l'émission. On va terminer du coup cette avant-dernière émission de l'année, du semestre, et on se retrouve dans 5 minutes pour la dernière. Merci pour votre écoute et à tout de suite.